Depuis mardi 3 juillet et jusqu'au 16 septembre, le musée d'ethnographie de Genève présente une collection de 80 tangas du bouddhisme tibétain. Jérôme Ducor, vous êtes conservateur au musée. Avant de nous présenter ces œuvres, quelle est l'articulation de cette exposition ?
Alors donc c'est la collection du musée, la collection de peinture tibétaine qui compte pour environ 80 pièces. Et cette fois-ci, on a pris le parcours au fond naturel d'un temple. On commence par le vestibule où sont rappelés en général les principes de base. Ensuite, la salle d'assemblée des moines pour la liturgie quotidienne et qui est suivie par la salle des divinités où c'est les rituels consacrés aux divinités du bouddhisme tantrique. Et puis enfin, on termine par la chapelle des protecteurs qui abrite les images des protecteurs locaux qui est un lieu assez redoutable et redouté.
Cette exposition est entièrement consacrée aux iconographies du bouddhisme tibétain. Quelle est la fonction de ces peintures et comment sont-elles utilisées ?
Alors, il y a plusieurs types. Il y a des peintures, les premières que l'on voit, c'est des peintures, celles du vestibule justement, qui sont didactiques. Elles résument l'enseignement. Elles sont toutes un peu comme ça se trouvait aussi dans nos cathédrales, où on avait, pour les gens illettrés, une illustration en images des enseignements principaux. C'est le même principe, la vie du Bouddha, des choses comme ça. Et puis ensuite, on a un type d'image qui, elles, servent de représentation des divinités et qui, en quelque sorte, remplace les statues devant lesquelles on va pouvoir faire les rituels d'offrandes, de lumière, d'encens, de nourriture habituelle. Et puis enfin, des types de peintures qui, elles, servent de support à la méditation, de pratique au cours de laquelle on visualise le personnage qui est représenté et on va s'identifier avec lui.
Donc ce sont en majorité des dieux qui sont représentés sur ces peintures. Y a-t-il une hiérarchie ?
Alors on parlera pas tellement de dieux parce qu'il y a des dieux, mais c'est quelque chose de très spécifique dans le bouddhisme. Les dieux, c'est un des modes de renaissance comme celui des hommes ou des animaux et qui est somme toute pas très important. Donc on utilise un terme plus large de divinité ou de déité parce que là-dedans, il y a des bouddhas, il y a ce qu'on appelle des bodhisattvas, il y a des gardiens de la loi, il y a tout un monde. Et effectivement, il y a une certaine hiérarchie, les personnages prioritaires étant éventuellement tous ceux qui représentent le Bouddha ou les Bouddhas, puisqu'on part du principe qu'il y en a dans toutes les directions.
Et c'est une pratique qui est très réglementée, codifiée, ou c'est très libre ?
Alors les peintures sont extrêmement codifiées par la tradition orale et par la tradition écrite. Il y a des textes, il y a des manuels, il y a des véritables encyclopédies d'iconographie, parce que pour pouvoir répondre à leur fonction correctement, il faut que ça soit des images qui respectent le code des couleurs, des proportions, et de manière générale qu'on ait un ensemble qui soit équilibré et donc véritablement significatif. On ne peut pas improviser. C'est des peintures qui sont d'ailleurs anonymes. En général, le peintre ne signe pas. Et c'est dans le style, dans des détails du paysage ou des choses comme ça, qu'il va pouvoir exprimer un petit peu plus sa créativité personnelle.
Donc concernant l'image, quelle est la place que le bouddhisme consacre à l'image ?
Alors vous le voyez autour de vous, mais ce n'est pas propre au bouddhisme tibétain, ça sera vrai dans les pays du Sri Lanka, de la Birmanie, de la Thaïlande, et puis jusqu'en Extrême-Orient, Chine, Japon. Le bouddhisme utilise l'image sous toutes ses formes. Dans l'histoire des religions, c'est un cas assez exemplaire. On a, dans les grandes religions mondiales, il y en a une comme l'islam qui refuse l'image. Le christianisme a utilisé l'image, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais l'a beaucoup utilisé, encore que elle est encore très présente à travers les icônes dans l'orthodoxie. Et puis alors, dans le cas du bouddhisme, c'est vrai aussi de l'hindouisme, plus il y en a, mieux ça vaut, si je puis dire. Au fond, il y a cette idée que l'absolu étant non représentable, on peut essayer de le représenter de toutes les manières possibles et imaginables, en sachant que ce n'est que des approches et que la réalité même n'est jamais effectivement capable d'être mise en forme.
C'est aussi un moyen de transmettre à un plus large nombre.
Exactement, c'est une illustration, parce que toutes ces images, vous en verrez, même qui sont effrayantes, qui pour nous ressembleraient à des diables, et puis qui ont plusieurs bras, avec des crânes, plein de sang dedans, mais tout ça a une symbolique. En général, ça vise à montrer, à rappeler l'impermanence de toute chose. Donc c'est un enseignement mis en image. Ouais.
Et cette peinture, ces pratiques, sont des pratiques encore vivantes et répandues ?
Oui, tout à fait, parce qu'au fond, comment ça se passe, c'est qu'en général, c'est des laïcs qui vont commander ces peintures, ou les acheter, et puis les offrir à un temple, par exemple, ou alors pour chez eux, puisqu'à la maison, on va avoir un petit autel, Et puis tous les jours, on va déposer des offrandes et réciter quelques textes. Et donc la peinture, l'art de la peinture lui-même se poursuit, que ce soit au Tibet même, ou dans la diaspora tibétaine en exil. Il y a des grands maîtres encore en Inde, notamment auprès du Dalai Lama à Dharamsala, dans le nord-ouest de l'Inde.
Donc cette pratique qui est toujours vivante diffère un peu de l'idée qu'on pourrait se faire de la culture tibétaine, puisqu'après 50 ans d'occupation chinoise et un train qui relie Pékin, Lhasa, de l'oppression, on pourrait se dire que la culture tibétaine et en particulier le bouddhisme tibétain est en danger.
Alors voyez ce qui se passe dans le cadre du Tibet même, le vrai risque il est ethnique, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements de population qui font que les Tibétains se trouvent noyés au milieu d'une population chinoise. C'est vrai de Lhasa où il y a plus de Chinois aujourd'hui que de Tibétains, mais c'est souvent dans ces situations difficiles, et ça vaut pour ceux qui sont exilés également, c'est souvent là qu'on va se rattacher encore davantage à ces traditions pour une question évidemment d'identité.
Jérôme Ducor, on constate dans nos sociétés occidentales que le bouddhisme est bien apprécié et connaît un large succès comparé à d'autres religions comme l'islam qui est un petit peu plus conflictuel. Et comment expliquer ce succès ?
Voilà, c'est un phénomène qui caractérise le bouddhisme depuis quelques décennies. Maintenant, il y avait eu une première vague dans les années 70 et puis là depuis les années 90. Bon, comme je le dis volontiers, c'est que si le bouddhisme a tellement de sympathisants, c'est que c'est une religion qui est sympathique, qui au fond ne pose pas d'a priori, offre un enseignement qui est à prendre ou à laisser. C'est une pratique qui tient au fond d'une thérapie personnelle pour ceux qui veulent s'engager dans la pratique, mais même pour ceux qui ne s'y engagent pas pour en parler, qui ont simplement une sympathie au niveau des idées, d'atmosphère générale, de style au fond. C'est une religion qui a un style au fond très humain, je pense c'est ça à quoi les gens sont sensibles.
Peut-être est-ce lié à un vide qu'il y a dans nos sociétés ?
Ah, alors ça, évidemment qu'on peut se poser la question, parce que c'est sûr que la religion traditionnelle de l'Europe, le christianisme, a des richesses dans sa doctrine, dans son enseignement, dans sa vie religieuse, spirituelle, tout le trésor des prières chrétiennes et le trésor artistique, qui a sans doute été un peu jeté avec l'eau du bain à partir des années 60, c'est vrai. Comme on dit du bébé qu'on jette avec l'eau.
Et là, on entend des chants, de la musique. Ouais. Est-ce que ça a un rôle aussi important dans cette religion ?
Alors voilà, comme je vous le disais, au fond, tous les sens de la personne humaine peuvent être utilisés. Alors, visuellement, on a les images. Olfactivement, on a de l'encens. Et puis, les sons, bien sûr. D'abord, c'est les textes qui sont récités. Le bouddhisme est d'abord une tradition orale. Donc, on récite la parole du Bouddha, qui est une manière de la perpétuer, de la diffuser. Et puis, c'est pas vraiment du chant, mais ça ressemble un peu au plein chant de chez nous. Et vous savez qu'aujourd'hui, on commence aussi chez nous à redécouvrir les beautés, par exemple, du plein chant grégorien.
Merci.
Je vous en prie.